Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Cette émission littéraire est consacrée à un éditeur qui a occupé une place tout à fait à part dans le monde de l'édition, le fondateur des éditions L'Âge d'Homme, Vladimir Dmitrievitch. D'habitude, nous invitons l'éditeur lui-même à présenter sa maison d'édition. Cette fois-ci, un drame nous en empêche. Vladimir Dmitrievitch s'est tué en voiture cet été, en 2011. Néanmoins, Dimitri, puisque c'est ainsi qu'il est convenu de l'appeler dans le monde de l'édition, avait souhaité fêter les 45 ans de la création et de la fondation de sa maison L'Âge d'Homme et les 25 ans de sa librairie, la librairie L'Âge d'Homme à Paris, qui se situe dans le 6e arrondissement, juste derrière l'église Saint-Sulpice. Alors nous avons décidé tout de même d'évoquer cet homme et de présenter sa maison d'édition, surtout que cette fête aura lieu en la fin du mois de novembre. Et j'ai invité pour en parler deux de ses plus proches, à la fois amis et collaborateurs, car je ne pense pas qu'on pouvait collaborer avec M. Dmitrievitch sans être de ses amis. Ludwig Nelly, bonjour. Vous êtes
Hélène Renard.
Responsable des relations extérieures, c'est-à-dire du rayonnement au fond de l'édition L'Âge d'Homme.
La maison d'édition a pour devise une ouverture sur le monde. Alors vous voyez,
c'est vaste
travail.
Et vous accompagne Gérard Cognot. Bonjour monsieur Cognot.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature slave à Nancy 2 et co-directeur des collections classiques slaves. Mais on en parlera tout à l'heure un petit peu plus en détail. Ludwig Nelly, retracez-nous un tout petit peu le parcours de Vladimir Dmitrievitch, parce que c'est un parcours exceptionnel, il n'est pas né éditeur.
Il n'est pas né éditeur et pourtant son père, qui était yougoslave, puisque Dmitrievitch est né à Skopje, c'était la partie de la Macédoine et ensuite c'est devenu la Yougoslavie. Son père lui avait dit « il y a deux métiers pour toi ». Quand il était enfant, soit tu feras des collections d'insectes, soit tu seras dans les livres. Et bien finalement, il était dans les livres. Il est né le 28 mars 1934, et vous disiez tout à l'heure, il est mort dans un accident de voiture le 28 juin 2011. Il avait donc 77 ans, il était évidemment toujours au travail, il est mort au travail. Il allait entre Lausanne et Paris, et il a porté des livres, comme il a fait pendant 45 ans. Alors, il est né en Yougoslavie avant la période communiste. En 1934, c'est avant la période communiste. Il a eu une enfance de lecture, une enfance d'apprentissage. Il a énormément appris à l'école. C'était le très bon élève qui est curieux de tout. Il a aimé certains de ses professeurs. Il aimait en reparler même après. Et puis, il y a eu le drame de la guerre et des bombardements de Belgrade. Et puis, il y a surtout eu le communisme.
Son père a été arrêté, je crois, a fait de la prison.
Son père a passé la plupart du temps de la vie du jeune garçon en prison. Ils étaient persécutés. Lui était le fils d'un prisonnier, donc il était maltraité. Donc ça l'a bâti, ça l'a consolidé d'une certaine manière. Mais ça lui a donné aussi cette horreur qu'il avait et qu'il a gardée de la censure. C'était quelqu'un qui avait horreur de la censure, tout simplement parce qu'il l'avait vécu. Il l'avait vécu lui-même, il l'avait vécu, il avait vu d'autres personnes en souffrir. Et donc, il a toujours eu cette ouverture, parce qu'il était curieux. Grand lecteur, avec la génération de ses amis qui avaient 15 ans, ils lisaient, ils parlaient de littérature, ils avaient leurs livres fétiches. En particulier « L'ange exilé » de Thomas Wolfe.
Et malgré ça, c'est le père qui pousse le fils à sortir du pays, à s'exiler.
Exactement. En 1954, Don Dmitri a à peine 20 ans, il lui dit « il faut que tu partes, tu n'arriveras jamais à rien, tu seras toujours bloqué ».
Et où s'exile-t-il? Où arrive-t-il?
Alors, il va arriver par un petit passage en Italie. Une histoire totalement rocambolesque, parce qu'il est parti de manière évidemment clandestine. Donc, il a réussi
sans
à
rien.
Se procurer un passeport où il était dit que la personne avait les yeux bleus, alors que Dimitri avait les yeux bruns, qu'il avait collé une photo de lui quand même, mais le reste, il n'avait pas pu transformer. Enfin bon, il est passé, il est arrivé en Suisse, et en Suisse, il ne parlait pas la langue française, il était toujours aussi épris de littérature, et après quelques années, il a commencé à devenir libraire, dans la grande librairie Payot. Librairie Payot qui existe toujours, hein, grandes librairies Payot de la Suisse et de l'Est de la France. Là, j'étais à Metz, il y a une librairie Payot qui est absolument magnifique. Et il est devenu là-bas le libraire de légende dont on parle encore aujourd'hui avec comme client Nabokov et d'autres personnages de ce genre-là. Et au fur et à mesure, il a pris conscience, avec des amis aussi, de la nécessité de créer une maison qui, c'est le rêve de tous les éditeurs, d'éditer les livres qu'on aimerait faire lire à ses amis. Et la maison est née en novembre 1966, d'où les 45 ans du 26 novembre 2011.
Alors cette fête, vous l'organisez en effet à la mairie du 6e arrondissement et on doit dire que tous les auditeurs sont invités et bienvenus. Il y aura 1000 choses, il n'y a pas seulement que des livres, il y aura des expositions de photos, d'autres manifestations. Un petit peu de mots sur cette fête justement.
Alors cette fête des 45 ans, on l'a préparée avec Vladimir Dmitrievitch depuis le début de l'année. Parce que 45 ans c'est quelque chose, on commence 4500 titres au catalogue. Donc on voit, le calcul est facile, par année, 4500 titres de toutes sortes, dont Gérard Cogniaux va parler tout à l'heure. Et je suis allée voir la mairie du 6e, puisque la rue Férou est, comme vous disiez, juste à côté. Et j'ai trouvé une mairie extrêmement accueillante, qui a mis à disposition la salle des fêtes, la salle des mariages, d'autres salons, d'où la possibilité de raconter quelques épisodes de l'histoire de l'âge d'homme. Alors j'ai demandé à certains, on aura par exemple Olga et Polina Zinoviev et Christine Mestre qui raconteront comment le manuscrit des auteurs béants d'Alexandre Zinoviev est arrivé à l'Ouest. Parce que pendant un temps, ça paraît loin maintenant, mais pendant un temps, l'Ouest et l'Est n'étaient quand même pas...
Ne communiquaient pas du tout.
Exactement.
Et nous, on ne lisait rien des livres de l'Est.
Oui, enfin, et comment le manuscrit de Vieille d'Estaing aussi, parce qu'on n'a jamais su comment il était arrivé à l'âge d'homme, provenant des, en quelque sorte, des archives du KGB, qu'elle avait extirpé de là pour l'adresser à l'âge d'homme. Et
un manuscrit qu'on pensait perdu, que Vassili Grossman, l'auteur, était désespéré et quasiment mort de chagrin.
Il avait été confisqué.
Ça avait été confisqué. On racontera la naissance, le premier livre des éditions L'Âge d'Homme, qui est le premier de la collection des classiques slaves que co-dirige Gérard Cogniaux, qui est le fameux Pétersbourg de Bieli. Enfin, il y a comme ça quelques histoires. Il y aura l'exposition des portraits des écrivains de L'Âge d'Homme par notre ami Louis Monnier. On aura aussi un film sur... Vladimir Dmitrievitch, qui s'appelle « Personne déplacée », comme le livre d'entretien.
Il nous faudrait recommander la lecture de ce livre pour bien connaître Vladimir Dmitrievitch, « Personne déplacée », entretien avec Jean-Louis Kuffer. Donc ça, c'est un livre qui existe maintenant
en version poche. Et pour qui veut entrer un peu dans le monde de Dimitri, c'est-à-dire de ce rêve qui est devenu réalité. Dimitri, c'était un homme qui avait beaucoup d'idées, qui regorgeait d'idées, mais c'était un homme concret. Les livres, il les a réalisé 4500 titres de toutes sortes.
Et ils existent, en effet.
Il tenait à aller jusqu'au bout des projets les plus improbables. Ça, c'était, je crois, sa vertu. On dit que c'est un homme de projet, mais c'est un homme de réalisation des projets, malgré le caractère souvent absolument...
Inattendu, c'est le moins qu'on puisse dire.
Presque irréalisable de certains projets.
Dit 4500 titres. Il faudrait nous citer quelques grands auteurs. Vous en avez déjà cité deux ou trois. Quels sont d'autres grands auteurs?
Alors, par exemple, il faudrait peut-être citer quand même le nom de l'écrivain polonais, qui était pas seulement écrivain, mais peintre, dessinateur, photographe, philosophe, dramaturge, etc., qui s'appelait Stanisław Ignacy Witkiewicz. En polonais, on l'appelle Witkacy, qui a joué un grand rôle dans la maison parce que Dimitri l'a découvert assez tôt, grâce à l'intermédiaire d'un ami de Dimitri, qui était le sculpteur Zamoyski. Il s'était pris de cet auteur, il en a fait le patron de sa maison. Et c'est grâce à Witkiewicz que moi, personnellement, je l'ai rencontré et que je suis devenu par la suite que j'ai collaboré à l'âge d'homme. C'était en 1972, parce que j'avais fait un séjour en Pologne, j'avais fait une étude sur Witkiewicz. Je connaissais la femme de Witkiewicz, qui m'avait remis un texte que l'on considérait comme perdu, qui était comme un testament, qui s'appelait « Les âmes mal lavées ». Et quand Dimitri a appris que je possédais ce texte que l'on croyait disparu, il m'a écrit pour me demander de le traduire. Il a publié, et effectivement, cela a été le début de ma collaboration et de mon amitié avec Vladimir Dmitrievitch. Donc, c'est pour citer, disons, celui que Dimitri lui-même considérait comme le patron de l'âge d'homme. Pourquoi le patron ? Parce que ce qu'il admirait chez Witkiewicz, c'était son absence totale de compromis, son refus de toute compromission et de tout compromis, sa volonté d'aller jusqu'au bout de ses idées, parce que c'était un personnage qui était en lutte, en quelque sorte, contre les grands courants de son temps, hein, que ce soit dans la vie politique ou dans la vie culturelle, et même l'avant-garde, parce qu'on le considérait comme étant à la pointe de l'avant-garde, mais lui-même, il critiquait l'avant-garde, il se voulait absolument, il était pour l'indépendance totale de la création. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'âge d'homme et de Dmitrievitch. Et mais en même temps, récemment encore, le définir, n'est-ce
voilà,
pas
oui.
On disait, il est l'ambassadeur du monde slave. Alors je voudrais un peu réagir contre cela. Moi, ce qui m'a rattaché à lui, c'est évidemment le fait que moi-même, je m'occupais de littérature russe et de littérature polonaise, mais c'est qu'il ne faut pas oublier que ses premières publications, elles n'étaient pas ni russes, ni polonaises, ni slaves, elles étaient suisses. Et qu'il a créé son catalogue, entre autres le catalogue Livres de poche de Suisse, compte 1500 titres, je crois bien.
Oui, parce qu'en Suisse, les livres de poche sont édités par l'âge d'homme. Et vous voyez, tout à l'heure, vous parliez de Personnes déplacées qui est en livre de poche. Ce sont les poches suisses et c'est l'âge d'homme qui édite les poches suisses.
Je me souviens, j'avais participé à un salon du livre à Moscou avec Vladimir Dmitrievitch et j'étais très heureusement étonné de voir que beaucoup de jeunes gens, qui évidemment lisaient le français, suivez ces publications suisses, réclamez ces livres suisses que moi-même j'ai découvert, on peut dire, parce que je n'étais pas vraiment spécialisé.
Il a fait découvrir donc la littérature suisse romande et de nombreux auteurs suisses.
Et je crois que plus encore que ça, que le fait qu'il soit serbe et qu'il ait voulu faire connaître les cultures slaves qui étaient mal représentées dans le domaine français, parce que les traductions, vous savez, à part Tolstoï et Dostoïevski, on n'avait pas grand-chose au moment où il a créé sa maison. Et l'un de ses buts est effectivement de combler les lacunes, de faire connaître des grands écrivains russes, polonais, tchèques. Je parle par exemple de Čapek, j'ai parlé de Witkiewicz, Chapsky par exemple pour le domaine polonais. Alors le domaine russe est innombrable, hein. Il y a Leskov, Rozanov, Bielé, dont peut-être
Goncharov, peut-être, Oblomov.
Goncharov. Enfin, il y a une multitude d'écrivains, pour ainsi dire, ou qui n'existaient pas dans la littérature française, ou qui existaient très mal parce qu'ils étaient mal traduits et mal connus. Même des écrivains les plus incontournables comme Tchekhov. Moi, j'avais travaillé sur Tchekhov, je m'étais rendu compte que les traductions de Tchekhov dans la Pléiade étaient très mauvaises, pleines de contresens. Donc, c'était un de ses buts, de même de faire retraduire des auteurs mal traduits, par exemple. Mais à côté de cela, il avait une curiosité. Disons, j'ai jamais connu quelqu'un qui ait un tel amour du livre et de la littérature universelle, du livre en général. N'importe quel livre, pas seulement le roman, mais la philosophie, la théologie, le cinéma, le théâtre, les arts.
Et, là, vous citez toutes les collections qui existent dans la maison.
Toutes ces collections. Et par exemple, je me souviens qu'une fois, j'étais avec des amis hongrois, par exemple. La littérature hongroise, on ne peut pas dire qu'elle soit très connue en France. Et ils avaient parlé de littérature hongroise quand ils étaient sortis. Ils m'avaient dit leur admiration pour la connaissance que Dimitri avait de cette littérature hongroise qu'il voulait aussi faire connaître. Alors, une des sources de cette connaissance de littérature universelle, il faut bien le dire, c'est la qualité des traductions serbe. Évidemment, Dimitri pouvait lire en russe, il pouvait lire en anglais. Il avait même appris l'anglais pour lire Thomas Wolfe dans le texte.
Le fameux dont on parlait tout à
voilà.
L'heure, l'ange exilé.
Donc ça, c'est vrai. Mais il m'a toujours dit, ah mais ça, je l'ai lu en serbe. Ça, je l'ai lu en serbe. Et donc, il faut bien reconnaître que dans cette Yougoslavie donc, de Tito, puisque c'est quand même là où il a été éduqué, il avait quand même à sa disposition, en plus, pas seulement la quantité des traductions, mais la qualité des traductions.
Voilà,
parce que vous savez que les petits pays, évidemment, par leur situation même, ils sont presque obligés de vivre de traductions. Leur culture est faite de traductions. Et c'est vrai qu'en Serbie, en Pologne, enfin, on peut dire que comparativement, la qualité des traductions, elle est certainement, enfin, dans la masse, supérieure à celle des pays de grande culture, voilà. Où on néglige souvent, vous savez, le traducteur, la traduction.
Voilà. Oui, c'est pas toujours reconnu. Enfin, ça a mis du temps à l'être.
Il y a le cinéma, par exemple, qui a une collection extraordinaire. Le théâtre, la littérature anglaise, l'italienne, Corti, par exemple, un grand auteur qu'on a fait connaître, etc.
Bien sûr. Litvinelli, Gérard Cornu, a employé des mots comme épris, indépendant, curieux. Si vous deviez résumer la personnalité de Dmitrievitch, quel adjectif utiliseriez-vous ?
Dmitri pensait que les livres faisaient du bien. Et dans cette vocation qu'il avait d'éditeur, il considérait que ses livres comblaient quelque chose en chacun, et à la fois comblaient peut-être des manques en chacun de nous, et nous ouvraient sur des mondes qu'on ne connaîtrait jamais, qu'on ne pouvait connaître que grâce aux livres. Et je dois dire que pour tous ceux qui étaient proches de Dmitri, d'abord il faisait lire les livres qu'il aimait. On est tous, toutes les amies de Dmitri sont liées par les mêmes livres. Et il avait cette espèce de talent, ce génie, de dire « prenez ça », on lisait le livre et on s'apercevait que ce livre vous convenait absolument. Et on se disait « mais comment j'ai pu vivre sans ce livre-là qui me fait du bien, qui répond à des aspirations que j'ai ou qui dilate mon intelligence ou mon cœur ou ma sensibilité ?» Et ça, c'était un talent qu'il avait.
Un talent d'homme attentif à l'autre.
Très. Quand il y avait une conversation avec Dmitri, c'est un homme qui était très occupé, il était absolument concentré dans la conversation. Le temps qu'il accordait aux personnes, aux auteurs ou aux amis, il était 100% dans la conversation.
Alors, il disait que le catalogue était son portrait robot, mais en même temps, et ça c'est une grande qualité qu'il avait comme éditeur et qu'on ne rencontre pas toujours, c'est que quand il comprenait l'importance d'un livre, même s'il était aux antipodes de ses propres
opinions,
c'était le cas, par exemple, de beaucoup de mes publications. Parce que moi, j'ai beaucoup publié à l'âge d'homme d'ouvrages sur les avant-gardes. Dmitri n'aimait pas les avant-gardes. Il les critiquait.
Mais il respectait.
Mais il respectait parce qu'il considérait qu'elles avaient une place historique, qu'il fallait faire connaître ce courant, qu'il fallait faire connaître ces auteurs, qu'il fallait faire connaître l'existence de ces mouvements qui étaient évidemment considérables dans les années 20, vous savez, en Russie surtout, mais en Pologne aussi, surtout dans les pays slaves. C'était dans le sillage du communisme. Lui, il était très anticommuniste et pour cause, puisqu'il avait tellement souffert de ce système. Mais même pour le communisme, vous voyez, c'est ça qui était admirable chez lui, c'est cette indépendance d'esprit, cette objectivité qu'il avait en tant qu'éditeur. Par exemple, malgré son anticommunisme, il voulait faire traduire des auteurs officiels qu'il considérait comme de vrais écrivains.
De bons auteurs.
Gorki,
voilà,
par exemple. Oui. Léonie de Léonov, que moi j'ai vécu, vous savez, dans les pays de l'Est, qui était l'un des phares du réalisme socialiste, etc. à l'époque, et que Dmitri considérait comme un grand écrivain. Et il a publié plusieurs ouvrages, il a fait traduire Léonov, Kataïev, etc. Donc il voulait faire connaître et répandre des auteurs qu'il estimait importants, quelle que soit l'opinion, quelle que soit l'orientation.
D'abord aussi, la littérature, d'abord l'art d'écrire.
Voilà.
Lidvine, il y a tout de même un auteur qu'en France on connaît quand même, c'est Volkov. Alors, quelques mots sur Volkov.
Alors oui, on disait les grands noms, il y a Volkov, il y a Gripari, il y a Georges Aldas. Voilà, oui. Alors Volkov, oui, alors là aussi c'est une histoire qu'on racontera le 26 novembre. Ces histoires qui sont romanesques, un auteur qui a cette passion d'écrire, c'est Vladimir Volkov, dont tous les manuscrits sont refusés, qui est pratiquement découragé, mais qui en même temps croit son étoile, et à qui un de ses amis, Pierre Gripari, pour lui donner son nom, dit « Tu devrais écrire à mon éditeur, qui est un Serbe passionné, et qui s'appelle Vladimir Dmitrievitch, et qui habite à Lausanne. » Et Volkov lui envoie un des volumes de sa tétralogie, et il l'envoie en tout petit, parce que, bon, il voulait pas que ce soit un trop gros colis. Alors, Dmitri le reçoit, par retour de courrier, lui dit « Je ne vois pas comment on pourrait ne pas éditer votre livre, mais envoyez-moi une version plus confortable, parce que j'ai mal aux yeux. Il s'était d'ailleurs usé les yeux à lire le manuscrit Vie et Destin de Grossman, qu'il avait lu sur microfilm. Il fallait que lise dans la nuit. Ouais. C'est une histoire incroyable. Et on a, l'âge d'homme a publié à peu de temps, un inédit de Volkov dans la collection de l'archipel slave qui s'appelle Douce Orthodoxie.
Voilà, parce qu'on sait l'attachement de Volkov pour l'orthodoxie. Merci de nous avoir évoqué. On ne peut pas tout dire sur Dmitrievitch. On espère tout de même que nos auditeurs auront maintenant une idée plus précise du personnage fondateur des éditions L'Âge d'Homme. Merci à vous, Monsieur Cognot, aussi d'être venu.
Merci à vous.
Et puis, alors, on se retrouvera pour honorer la mémoire de notre ami Vladimir Dmitrievitch à la fin du mois de novembre.
Voilà, le 26 novembre,
le 26.
Entre 12h et 19h, à la mairie du 6e arrondissement, qui nous accueille généreusement.
Merci à vous deux.
Merci beaucoup.